France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Faut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous voyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Connaissez-vous le Vegetable Orchestra ? C'est un ensemble musical qui, depuis plus de 20 ans, ne joue qu'avec des légumes. À l'aide de perceuses, d'économes, de couteaux, ils transforment les légumes du marché en instruments de musique. Quand deux poireaux frottés l'un contre l'autre forment un violon, ou quand une carotte creuse et enfoncée dans un demi-poivron donne un trombone, à la croisée de la musique et l'artisanat, ou plutôt de la musique, de l'écologie et de l'humour, à l'image du nouveau one-man show de notre invité. L'ouverture de Glassworks de Philippe Glass pour démarrer, pour accueillir notre invité aujourd'hui. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour Saskia.
Vous ici ?
Absolument, c'est à France Musique.
Mais oui.
Pour parler de musique classique.
C'est pas mal quand même.
C'est inattendu.
Mais oui.
Je suis très heureux de votre
invitation. Mais il faut surprendre dans la vie.
Ah bah ouais, mais là j'ai essayé d'avoir des choix surprenants.
Eh ben vous l'avez fait. Alors, Philippe Glass peut-être plus connu, mais pour la suite en tout cas, vous m'avez épaté. 1981, l'introduction de cette œuvre pour petit ensemble, ici joué au piano seul, sont spécifiquement pensées pour le Walkman, pour être entendu malgré les fracas de la ville, vous le saviez ça ?
Pas du tout. Les fracas de la ville, Philippe Glass aussi les a décrits, je crois, dans un autre, dans un film dont il a fait la musique qui s'appelle Koyaanisqatsi, et qui est un film monté entièrement en time-lapse. Mais j'ignorais que c'était le cas aussi pour Glassworks, en l'occurrence.
C'est comme ça que vous découvrez la musique classique, Thomas VDB, par le cinéma, par l'image?
Absolument. Les choix qui ont été les miens pour que vous m'avez demandé de venir avec des choix musicaux, j'ai remarqué qu'ils sont à chaque fois, mais lié à une image que j'ai vue, ou par exemple, je l'ai vu, c'était la musique de la pub Tropico. Bon voilà, enfin c'est pas Tropico, mais Tropico, je sais pas si on utilisait la musique classique, mais donc j'ai essayé de sortir un peu des sentiers battus, parce qu'évidemment pour éviter tin ta tin ta 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 ta, voilà, donc j'ai essayé de changer un peu les trucs. Et exactement, je découvre toute la musique classique à chaque fois, quand c'est pas la musique classique que me faisait écouter ma mère quand j'étais petit, qui me évoquait surtout le dimanche après-midi. C'est-à-dire que ma mère écoutait beaucoup des nocturnes, des musiques vraiment des menuets,
des choses extrêmement joyeuses,
des trucs vraiment, puis qui, moi, c'était pas l'âge que j'avais d'écouter ni du menuet. J'ai toujours pas l'âge d'écouter du menuet, je dois dire. Mais du coup,
pourquoi il y a un âge pour écouter du menuet?
Je pense avoir les cheveux blancs,
ouais.
non mais donc ma mère m'a fait découvrir la musique classique, mais je partageais pas beaucoup de goûts en commun avec elle, à part quelques requiem, parce qu'elle adorait les requiem.
Ah, ça c'est magnifique quand même.
Mais sinon je découvre la musique au hasard de films, de pubs, de choses comme ça.
Alors, ex-journaliste musical, vous êtes aujourd'hui acteur, humoriste, chroniqueur chez Charline et Alex sur Inter. Vous avez écrit un spectacle sur le rock avec cette question, c'est quoi le rock ? Moi j'ai envie de demander, c'est quoi pour vous la musique classique ?
C'est quoi la musique classique ? Déjà, c'est ça dépend du point de vue depuis lequel on se place, parce qu'il y a des gens qui vont me dire le deuxième Led Zeppelin, c'est un classique. Bon, voilà. J'ai vu, il y a une série de Matt Groening, qui est le fondateur des Simpsons, qui a fait une série qui s'appelle Futurama, qui se passe, je sais pas combien de siècles en avance dans le futur. Et à un moment, il y a un personnage qui est en train d'écouter les Beastie Boys à fond dans sa chambre, et son père tape à sa porte en disant arrête d'écouter arrêtez cette musique classique, y'en a marre! Et donc voilà, est-ce que de la musique classique, c'est de la musique qui a au moins 200 ans, ou est-ce que, parce que là, on écoutait Philippe Glass, qui est encore vivant.
Oui.
Je me demandais si ça rentrait exactement dans le cadre de ce qu'on appelle la musique classique, comme c'est simplement du piano, et que certainement c'est censé être reposant, comme l'est de la musique classique. Je sais pas si toutes les musiques classiques sont censées être reposantes, mais, c'est quoi la musique classique? Déjà, c'est une musique dont je connais très très mal. En fait, ce qu'on appelle la musique classique, si je vais dans le rayon musique classique d'un disquaire, j'étais chez un disquaire il y a une heure encore, je suis perdu dans le référencement. C'est-à-dire qu'en fait, le nom des morceaux, moi j'aime bien quand un morceau s'appelle l'Aziza. Enfin, on a le titre, c'est clair, c'est l'Aziza de Daniel Balavoine. Là, c'est opus numéro 4, mouvement 54,
sonate,
et je suis perdu dans tous ces trucs-là. Donc je sais identifier des musiques parfois que j'aime. Shazam m'aide énormément, cette application qui permet de reconnaître tout de suite les morceaux. Donc je me constitue une playlist de musique classique dans mon téléphone grâce à Shazam, parce que des fois je suis accroché par un truc et je le rentre dans cette playlist. Mais voilà, c'est avant tout énormément de musique que je ne connais pas, beaucoup qui, je veux pas mentir, qui m'ennuie aussi. Des fois, il y a des morceaux, il est beaucoup trop long. Ils n'ont pas été vraiment tous les Bach, Beethoven, Mozart forgés vraiment dans le morceau de 3 minutes. Moi, j'écoutais beaucoup de punk rock. Voilà, c'est pas ça qui les mène, quoi. Mais donc, c'est une musique qui peut me toucher, me faire tomber de ma chaise parfois. Et puis, voilà, c'est aussi une musique qui ne m'intéresse pas parfois.
De ce premier mouvement de la troisième symphonie de Gorky dans la version de Down Up Show, ici la soprano accompagnée par le London Sinfonietta, David Zinman à la direction. Voilà une œuvre longue, Thomas VDB, qui vous fait tomber de votre chaise.
Exactement, Alors donc c'est la troisième symphonie de Gorky, je connais pas les deux premières, je sais même pas, combien il en a fait, mais comment j'ai découvert Gorky? Déjà Gorky, je connais que son nom, je sais même pas comment il s'appelle, Jean-Jacques.
Henrik
Gorky, bien sûr, qu'on embrasse. J'ai découvert ça par, ça vient du rock en fait. Moi donc j'écoute énormément de pop rock. En fait j'étais fan d'un groupe qui s'appelait Faith No More, dont le chanteur a fait beaucoup de musique avec un saxophoniste new-yorkais qui s'appelle John Zorn, qui a croisé toutes les musiques qui existent, du métal au jazz expérimental aux musiques tziganes. Et il a collaboré avec le Kronos Quartet, qui est un quartet de musique contemporaine, qui fait beaucoup de, qui a joué Gorecki. Et donc c'est en achetant un disque du Kronos Quartet il y a longtemps que j'ai découvert Gorecki. Et la première fois que j'ai entendu ça, mais même là, je viens de réécouter, là, on était à 15 minutes à peu près du morceau.
Exactement. Hein, donc plus ou moins la moitié.
La moitié du morceau qui fait 30 minutes. Et là, quand ça bascule dans le tragique avec ses violons qui s'envolent, là, ça se voyait pas, mais j'avais vraiment des frissons. Voilà, ça fait typiquement partie des trucs qui rentrent dans mes playlists d'un seul coup, parce que je me dis ce morceau est incroyable. C'est pas un truc que j'écoute régulièrement parce que c'est quand même un peu plombant, mais je trouve ça voilà magnifique.
Et puis c'est cet enregistrement-là que vous avez choisi. Il a une histoire extraordinaire. Donc l'œuvre a été créée en 1976. Elle n'était pas beaucoup jouée jusqu'à ce disque qui est diffusé sur la radio britannique Classic FM. Et en fait, les auditeurs sont devenus fous. Donc ils ont commencé à envoyer des messages, beaucoup de messages pour savoir quelle était cette version. Et ce disque a fait numéro un des ventes pendant un moment. Donc ça a vraiment explosé.
Born to be alive de la musique classique.
Je vous m'ôtais les mots de la bouche, évidemment. Vous faites paraître le 13 octobre prochain Comédienne Rhapsody, édité chez Flammarion. Vous racontez votre passion pour la musique, votre expérience d'ex-journaliste musical spécialisé dans le rock, je le disais. Est-ce que justement ces influences classiques, on en entend souvent parler d'ailleurs, est-ce que ces influences classiques étaient des sujets, un sujet qui revenait peut-être dans les interviews que vous avez menées avec de grands musiciens d'aujourd'hui?
Alors, faut savoir que je travaillais dans un magazine qui parlait beaucoup de groupes de punk et de métal et tout. Donc, on va pas se mentir, il y avait pas beaucoup de...
Ah, mais vous rigolez en métal.
Oui, mais de ce qu'on appelle le métal.
Les musiciens métal.
Avec les cheveux longs. Souvent. Par exemple, il y a un groupe finlandais qui s'appelle Apocalyptica, qui ne reprend que le répertoire de Metallica, mais au violoncelle. Donc on parlait de ce groupe-là dans les magazines de hard rock. En dehors de ça, à part, je sais que moi j'ai grandi, le groupe qui a forgé mon éducation musicale quand j'étais enfant, c'est Queen, qui a été vraiment un truc, il y a eu un avant et un après quand j'ai découvert Queen, et ma mère qui était fan de musique classique, adorait Queen, et donc elle détestait les autres groupes de hard rock que j'écoutais quand j'étais gamin, mais elle était « Ah non, mais Queen c'est génial, on sent qu'ils sont allés dans les écoles de musique, et tout, donc voilà. Donc,
c'est gage de qualité.
Oui, voilà, clairement. Ah mais il a fait le conservatoire, Freddie Mercury, c'est ça. Donc en fait, il y a eu un lien quand même dans ma famille, en fait, je savais que dès que je sentais qu'une musique était d'obédience classique ou vraiment avait subi l'influence de la musique classique, c'est un truc que je mettais un peu plus fort chez moi juste pour faire plaisir à ma mère, qu'elle dise « Ah ça j'aime bien, ah ben ça j'aime bien ». Maintenant, effectivement, je parle assez peu de musique classique dans ce livre. Enfin, si, j'en parle quand même un petit peu parce que ma mère, comme je le raconte dedans, ma mère allait à la chorale quand j'étais petit et donc il fallait qu'on aille écouter ses concerts à la chorale. Et donc, il y avait tout un tas de répertoires qui étaient parfois classiques, parfois des chansons plutôt païennes. Et donc, c'est pas un livre qui parle énormément de musique classique, mais c'est un livre qui parle de la façon dont le rapport que j'ai entretenu avec mes passions musicales depuis enfant ont influencé un peu ma personnalité. C'est-à-dire combien j'ai cru qu'en écoutant, en me mettant à écouter un peu de rap quand j'avais 17 ans, c'était pertinent et logique que je mette un pantalon large. Je disais, ah non mais moi je viens du rap à la base. Donc voilà, donc en fait la musique classique c'est pas un truc dont je parle énormément, même si le mot Rhapsody effectivement fait allusion à Bohemian Rhapsody de Queen. Mais voilà, il n'y a pas tant de musique classique que ça dans ce livre. This perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me estás
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Lyrical sensation, my guide and inspiration.
Yeah!
Thomas VDB, vous avez reconnu ces voix.
Oui, j'ai reconnu la voix de Freddie Mercury et de Montserrat Caballé, effectivement, pour la musique qu'ils avaient enregistrée pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, mais qu'ils avaient enregistrée 5 ans auparavant, en 87. Demandez-moi pour les dates. Hein,
ouais, franchement, je suis épaté.
Donc oui, évidemment, j'ai reconnu.
Mercury, grand fan d'opéra de cette soprano espagnole, Montserrat Caballé, ici qu'on écoutait à ses côtés. Vous comprenez cette passion pour ce type de voix?
L'opéra, c'est quelque chose que ma mère adore l'opéra. Pardon, je parle toujours
de ma mère. Oui, vous parlez beaucoup de votre maman.
Mais si ma mère avait pas eu le disque de musique classique, j'aurais pas, je pense que j'aurais pas de référence comme ça. Mais je me souviens de morceaux d'opéra qu'elle écoutait. Je me souviens de... Donc effectivement, moi, j'adore les voix, j'adore les jolies voix. C'est vraiment hyper cliché de dire ça comme ça, mais j'aime, c'est le premier truc auquel je suis sensible, c'est la qualité d'une voix. Et donc, il y a beaucoup de trucs d'opéra qui me retournent complètement. Donc, je pense à Nabucco de Verdi, c'est ça? C'est un opéra, ça?
Absolument.
Nabucco, ouais, je m'y connais en classique.
Mais finalement.
Et c'est marrant parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure de combien la musique classique, je la découvre à travers les pubs, des choses comme ça, des films. Dans mon précédent spectacle, je faisais une blague, en fait, parce qu'il y a une série de compilations qui est sortie il y a une quinzaine d'années. Qui s'appelait j'aime pas le classique mais j'aime bien. Et j'étais là, mais le titre de la compilation, est-ce qu'on peut trouver plus beauf que comme titre de compilation? J'étais là, c'est comme si on faisait un livre qui s'appellerait je suis peut-être teubé mais ça je le sais. Et j'étais là et donc c'est pas possible. Et donc voilà, et donc je pense à ces morceaux, je pense à ça parce qu'en fait en l'occurrence la compilation d'opéra qu'avait ma mère, c'est une compile qu'elle avait gagnée en cassette parce qu'elle avait eu des points ESSO. Et donc dans la R25, je sais pas, on écoutait cette compile qui avait été offerte par ESSO. Merci ESSO.
Merci, on ne remerciera jamais. Merci, ESSO.
France Musique, Saskia Deville.
Holos, d'après la fantaisie numéro 3 pour flûte à bec en ré mineur, TWV 40, vous aimez les longs titres, évidemment, ici, Allegro, dernier mouvement de cette fantaisie de Georg Philipp Telemann, compositeur baroque ici, revisité par Vladimir Cauchemar, le DJ, vous connaissiez ça?
Absolument, Thomas VDB, c'est un DJ français signé chez Headbanger. Et qui a fait son gros hit avec un morceau avec de la flûte à bec.
C'est quand même pas mal. Vous voyez que la flûte à bec est dans le coup.
Eh ouais, c'est en train de revenir. C'est marrant. J'ai eu cette émission cet été sur France Inter qui s'appelait Qui veut gagner la flûte à bec? Qui était une sorte de réponse du service public à Qui veut gagner des millions. Mais bon, voilà, on n'avait pas de millions à faire gagner. On s'est dit, on va remplacer par une flûte à bec. Et c'était un jeu, c'était un quiz musical un peu délirant dans lequel je posais des questions de culture musicale, mais lesquels voulaient susciter du rire et de la surprise et de l'amusement avec mes invités. Et donc je me suis éclaté à faire ça. Mais voilà, je suis pas plus fan de flûte à bec que ça. Sinon.
Mais vous en jouez très bien. Quel talent.
C'est une relecture en TW-153 en fa dièse.
C'est ça, d'une œuvre de Telemann, bien évidemment, tout le monde le sait.
De Lalo Schifrin.
Je sens qu'il y a une histoire trouble entre vous et la flûte à bec. Ça remonte à l'enfance?
Alors, je vais faire gaffe à ce que je dis, parce que faut savoir qu'en faisant cette émission cet été sur Inter, j'ai reçu une lettre de l'association des amateurs de flûte à bec, mais une lettre très sérieuse des gens qui étaient là. Ouais, il y en a marre. Ah, c'est facile de se moquer de la flûte. Ah bah ouais, soi-disant que c'est l'instrument ringard et tout. Et donc, les mecs m'ont dit, vous devriez regarder le travail de je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Benoît Sauvé, j'espère que je dis pas de bêtises, qui est un grand flûtiste français. Et donc, il m'envoie une vidéo. Effectivement, je crois que c'est un musicien de jazz français qui joue de la flûte à bec, mais alors on écoutait Philippe Glass au piano tout à l'heure, c'est pareil, mais à la flûte à bec. Et donc j'étais là, bah oui, évidemment, mais il y en a un qui est allé au bout, quoi. Il y en a un qui a eu la persistance de vouloir se dire, allez, je vais jusqu'au bout de la flûte à bec, parce que tout le monde a abandonné en troisième la flûte à bec. Ça m'éclatait pas du tout de jouer de la flûte à bec à l'école, quoi. Donc d'apprendre la musique avec ça. Donc aujourd'hui, j'ai une de mes grandes frustrations dans la vie, c'est de pas être musicien. Je suis persuadé.
Vous n'avez pas appris d'autres instruments, petit ?
Non, parce que j'étais là. Ben non, on m'a appris la flûte à bec. Vraiment, c'était la pire porte d'entrée pour me mettre au solfège ou à la musique, c'était de nous apprendre à jouer de la flûte à bec, quoi.
C'était donc, surtout une porte d'entrée unique.
Oui,
c'était peut-être ça le problème.
Oui, j'adorais déjà écouter de la musique, mais dans la pratique de la musique, la seule idée qu'ils ont eue, c'est de nous dire, bon, on va vous faire jouer de la flûte à bec. J'étais là, mais non, c'est pas. Et même déjà, j'avoue que même tous les instruments qui viennent un peu du classique. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais à l'école ado et que j'écoutais du rock, j'avais des potes qui me disaient, ouais, je fais mercredi midi, j'ai mon cours de clarinette. J'étais là, mon pauvre. En fait, voilà, j'étais là. Donc, ça me semblait triste de l'imaginer jouer seul de la clarinette dans sa chambre pour répéter. J'aime mieux écouter de la musique. J'aime mieux écouter du pop rock dans ma chambre.
Ou chanter, parce que vous chantez beaucoup.
Je chante beaucoup, en l'occurrence.
Cela dit, dans vos choix d'écoute ici pour cette émission, vous êtes exigeant. Hein, le dernier choix qu'on va entendre, et je vous en remercie, c'est le Busch Quartet dans le 15e quatuor de Schubert enregistré en 1938.
Je voulais vraiment vous en foutre plein la vue,
mais
avec mes choix. Je
me
suis dit vraiment
respect.
Ce truc. Non mais c'est Schubert en l'occurrence. Et Schubert que je connais très mal, Antoine Schubert. Encore une fois, voilà le morceau qu'on va écouter. Je l'ai découvert à travers un film de Woody Allen qui s'appelle Crime et délit, qui est déjà un des meilleurs Woody Allen, et qui raconte l'histoire d'un personnage qui a un cas de conscience épouvantable parce que donc sa maîtresse le fait chanter parce qu'elle lui dit je vais tout balancer à ta femme et tout. Et donc le seul truc qui permet de le sortir de cette situation, c'est un de ses amis qui est tueur à gages qui lui dit on peut éliminer ça, et donc il fait tuer sa maîtresse. Et donc il est habité par un cas de conscience après, par la culpabilité. Et cette musique de Schubert là qu'on va écouter, pour moi, c'est de la musique qui évoque le cas de conscience et la culpabilité.
Merci Thomas VDB.
C'est clair ?
Mais c'est clair. Parfaitement clair. Okay. On va l'écouter. J'annonce à nos auditrices, nos auditeurs que vous serez en spectacle. Vous êtes en spectacle à l'Européen jusqu'au 26 février. C'est dans le 17e arrondissement à Paris.
Oui.
Avec ce one-man show Thomas VDB, S'acclimate, que j'ai vu, que je conseille chaleureusement.
Merci,
à nos auditrices, à nos auditeurs. C'est une merveille. Et puis pour entendre Thomas VDB chanter, pourquoi s'en priver ?
Bah ça, c'est un petit bonus.
À bientôt.
À bientôt, Saskia. Merci beaucoup.
Et merci à toute l'équipe, Eric Mancien, Pauline Boisaubert et Romain Lenoir. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Très belle journée à l'écoute de France Musique. Thank you.
réécouter sur francemusique.fr.